franceinter.fr.
Nemo, est-ce que tu ressens une inflammation de tissu du sang vaseux?
Non.
Combien j'ai de bandes sur le dos?
Ça va, je te dis.
Combien j'ai de bandes sur le dos?
3.
Non, tu vas bien, ça va pas du tout. J'ai 2, 3 bandes, c'est tout. Oh, tu n'as rien.
Ça baigne.
Voilà un extrait du film d'animation Le Monde de Nemo des studios Pixar, puisque ce sont les poissons clowns qui sont à la une de la science aujourd'hui, Axel Villard.
Oui Mathieu, et c'est leur costume qui va nous intéresser. Est-ce que vous savez Mathieu, de quelle couleur sont les bébés poissons clowns?
Alors ils seront peut-être orange, non? Non, priori.
Ils sont transparents,
allons
et ça
bon.
Dure 50 jours, puis ils orangissent, une bande blanche apparaît, puis 2, puis enfin 3. Et c'est cette métamorphose que vient de décrypter une équipe de chercheurs français et belges. On accueille l'un d'entre eux pour en parler, bonjour Vincent Laudet.
Bonjour.
Vous êtes avec nous depuis les locaux de France Bleu Roussillon. Vous êtes biologiste, professeur à Sorbonne Université et directeur du labo Arago à Bailleul-sur-Mer. Alors ce poisson clown, c'est quand même un peu la star des récifs. Il est connu de tous. On imagine qu'il est très étudié. Je suis assez étonné que vous découvriez seulement maintenant cette histoire d'apparition en décalé des bandes. Comment ça se fait ?
Ben essentiellement parce que les gens qui étudient le poisson clown, la plupart du temps, sont des écologistes qui s'intéressent à la façon dont ils vivent dans les récifs, ou alors qui s'intéressent à tester l'effet du réchauffement climatique sur ce poisson. Pas tellement sur son développement embryonnaire, et c'est ça l'originalité de nos travaux, c'était de vraiment l'étudier comme des biologistes du développement peuvent étudier une espèce.
Alors racontez-nous l'histoire de ces couleurs, l'histoire des couleurs de ces clowns tout au long de leur vie.
Ben alors, comme vous savez, en ayant vu le film, les parents poissons clowns pondent des œufs à côté de l'anémone de mer. Ces œufs vont éclore et vont donner des petites larves, à peu près 300, transparentes, qui vont partir loin dans l'océan et vivre dans le plancton pendant, chez cette espèce, une quinzaine de jours. Et puis, ils vont revenir de l'océan vers le récif. Et évidemment, quand ils sont dans l'océan, il faut qu'ils soient transparents, parce que sinon, ils seraient trop visibles. Donc, ils sont transparents pour se confondre dans le bleu et éviter leurs prédateurs. Et quand ils rentrent sur le récif, eh bien, leur pigmentation, leur bande de couleurs apparaissent. Donc, le orange, bien sûr, et puis les 3 bandes blanches qui apparaissent successivement.
Alors, elles apparaissent toujours dans le même ordre, la tête, le corps et puis la queue. Qu'est-ce qui vous intéresse, vous, dans cette découverte d'un point de vue du développement?
Eh ben alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est toujours le même ordre, la tête, le tronc, la queue. Et puis que ensuite, on a étudié l'évolution de ces bandes. On a retracé dans les différentes espèces de poissons clowns l'histoire des bandes. Il y a des poissons clowns qui ont des espèces qui ont 0, 1, 2 ou 3 bandes. Et on s'est aperçu que le poisson clown ancestral avait 3 bandes et qu'on a donc une histoire évolutive, une diversification des poissons clowns avec des pertes de bandes. Et ces pertes se font dans l'ordre inverse de leur apparition au cours du développement. C'est-à-dire, on perd d'abord la bande de la queue, puis celle du tronc, puis celle de la tête. Ça suggère qu'il y a une contrainte développementale très très forte. On peut pas faire n'importe quoi. Mmh. Ça suggère qu'il y a un système génétique très particulier et très intéressant à aller étudier.
Donc ça veut dire qu'aujourd'hui tous les poissons clowns ont tous 3 bandes?
Alors les poissons clowns, le Nemo, l'espèce Nemo a 3 bandes. Mmh. Et dans les 30 espèces, il y en a qui ont 0, 1 ou 2 bandes.
D'accord.
Est-ce que vous avez pu déterminer, j'ai envie de dire, le pourquoi, à quoi servent ces bandes et pourquoi cet ordre différé d'apparition alors?
Alors, le pourquoi en biologie, le pourquoi est toujours une question compliquée. En fait, à toute question en biologie, du pourquoi, ça ramène à la question des causes immédiates et des causes finales. Je vais prendre un exemple simple. Pourquoi les oiseaux ont-ils des ailes? Eh ben, réponse évidente, pour voler. Ça, c'est la cause finale. Mais aussi, ils ont des ailes parce qu'ils ont modifié l'expression de certains gènes au cours du développement des membres pour les transformer en ailes. Ça, c'est les causes immédiates. Donc, si on pose la question, pourquoi les poissons clowns ont-ils des bandes? Il y a une cause finale. Et la cause finale, là, visiblement, c'est pour se reconnaître plus facilement entre espèces. Visiblement, les bandes servent à la reconnaissance interspécifique. Donc, un poisson compte les bandes des poissons là autour et détermine c'est la même espèce ou c'est pas la même espèce. Et par ailleurs, sur la cause immédiate, eh bien, on voit cette apparition successive au fur et à mesure qui suggère qu'il y a un mécanisme développemental très complexe lié à la position sur le corps qu'il faut qu'on étudie. Pour l'instant, c'est une boîte noire.
Alors, et ces bandes, est-ce qu'on peut parler de camouflage? Parce que quand même, il est flashy. C'est difficile de parler de camouflage quand on brille comme ça.
Ouais, alors il peut y avoir de très nombreux messages associés à une couleur. Dans le cas du poisson clown qui vit tranquillement dans son anémone de mer, il me semble que le camouflage n'est pas tellement son problème. Parce que quand il est dans son anémone, personne ne vient l'embêter, elle est urticante, ça fait peur aux autres poissons. Donc le poisson clown ne sort de l'anémone que pour défendre ses œufs. Et là, effectivement, il prend des risques, mais il n'a pas besoin d'être camouflé. Là, il veut plutôt se voir pour essayer de faire peur à l'adversaire. Donc, il se trouve que les poissons clowns, c'est des animaux extrêmement sociaux, qui ont un système social assez complexe, et donc leurs bandes leur servent sûrement à établir des communications entre espèces et avec les espèces voisines.
Vincent Laudet, est-ce que le poisson clown pourrait être un modèle animal du point de vue de la longévité ou pas ?
Ah, c'est un formidable modèle du point de vue de la longévité. Imaginez, on estime qu'un poisson clown, c'est un poisson qui fait 5, 6, 7 centimètres, peut vivre 30 ans. 30 wow. ans, pour vous donner une idée, c'est la longévité du dromadaire. Donc c'est une longévité extrêmement grande pour un poisson de cette taille. Et donc la question de savoir comment il atteint une telle longévité est ouverte et serait très intéressante. J'aimerais bien pouvoir travailler là-dessus un de ces jours.
Ouais, Walter Lango, est-ce que vous saviez que le poisson clown était un champion de la longévité dans les eaux du globe?
Je l'ignorais à propos du poisson clown, mais il y a plusieurs groupes en Allemagne, le groupe Max Planck et un autre groupe à Stanford, groupe de chercheurs donc qui se penchent sur la longévité d'autres espèces de poissons. Leurs études sont couronnées de succès, mais je suis ravi de voir qu'on s'intéresse à d'autres espèces encore, notamment le poisson clown.
Allez Axel, une dernière question très vite.
Oui Vincent Laudet, comment se porte le poisson clown dans les récifs de Mouréa en Polynésie française? Là où vous l'étudiez, notamment après le film de Pixar.
Eh ben, écoutez, il se trouve qu'à Moréa, il n'y a pas l'espèce qui sert au film de Pixar, donc tout va bien de ce point de vue-là. C'est vrai que il faut se méfier de l'utilisation des poissons clowns, notamment parce que beaucoup de gens veulent en acheter pour faire plaisir à leurs enfants. Il faut rappeler que c'est une espèce délicate à faire tenir en aquarium et que donc il faut se lancer dans un élevage de poissons marins uniquement avec beaucoup de précautions et qu'il faut faire attention aux récifs coralliens en général.
Merci Vincent Laudet, merci aux équipes de France Bleu Roussillon à Perpignan. Et puis Axel, on se retrouve demain pour une nouvelle Une de la Science.
À demain.
Et puis en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, planète ou pas planète, Pluton fait encore parler d'elle et de son statut. Classée parmi les planètes jusqu'en 2006, elle est aujourd'hui considérée comme une planète naine en raison de son orbite elliptique. Mais un universitaire de Floride compte bien lui redonner son statut originel. Dans une large étude, il défend l'idée que la classification actuelle n'est pas la bonne pour les planètes car les orbites sont changeantes dans l'histoire du système solaire. Il propose d'appeler planètes les corps dont la gravité est suffisante pour former des sphères bien rondes. Le débat est donc relancé une fois encore. L'astrophysicienne britannique Jocelyn Bell Burnell vient de recevoir le prix Breakthrough Science 2018 en physique fondamentale. Ses travaux sur les pulsars radio datent des années 70, avaient valu un prix Nobel à son directeur de thèse de l'époque, Anthony Ewish, mais pas à elle. Une injustice que ce prix décerné par Facebook et Google, le plus lucratif de la science moderne, essaye donc de compenser. La chercheuse, aujourd'hui professeure à Oxford, a indiqué que l'argent servirait à la création d'une bourse d'études pour les femmes, les minorités ethniques et les réfugiés. En science. Et puis pour terminer, une bonne nouvelle inattendue dans le désert du Sahara, l'installation à certains endroits de panneaux solaires et d'éoliennes a fait augmenter les précipitations. Un effet bénéfique qui s'explique par deux phénomènes conjugués. D'un côté, le brassage de l'air dû aux pales d'éoliennes qui augmente l'évaporation et favorise la pousse de plantes. Et de l'autre, les panneaux solaires qui diminuent la réflexion de la lumière du soleil sur le sol, ce qui permet donc aux nuages de mieux s'accumuler.